VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 3 mars 2015. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Arnold Wilson. Au sommaire de cette édition...
Le projet d'accord d'Alger prend en compte les préoccupations essentielles des Maliens, assure le chef de la diplomatie malienne à son retour à Bamako.
Boko Haram publie une vidéo sur la décapitation de deux hommes accusés d'espionnage.
Un citoyen américain d'origine somalienne, recherché pour terrorisme, finalement entre les mains des Américains en Somalie.
À Abidjan, l'avocat de l'État ivoirien a demandé 3 milliards d'euros de dommages et intérêts à l'ex-première dame Simone Gbagbo et à ses 82 co-accusés.
Ici à Washington, discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, aujourd'hui devant les deux chambres du Congrès.
Au sujet de l'Iran, qui sera au centre de cette intervention, Téhéran devra geler pendant 10 ans ses activités nucléaires sensibles pour le succès de tout accord, a déclaré hier le président Obama. Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco et les sports. Pour l'instant, le journal. Au Nigeria, les militants de Boko Haram ont publié une vidéo montrant la décapitation de deux hommes. Il s'agirait de membres de l'organisation terroriste accusée d'espionnage. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Avec un drapeau noir flottant en second plan, la vidéo de 6 minutes est similaire à celle précédemment produite par Boko Haram. Sur ces images mises en ligne lundi, on pouvait voir des militants masqués, armés de longs couteaux, debout derrière deux hommes à genoux. Avant leur décapitation, l'un d'entre eux s'est présenté comme étant Daoud Muhammad, un habitant de la ville de Baga, dans le nord du Nigeria. Il explique avoir accepté l'équivalent de 25 dollars donné par un agent de police pour espionner. La vidéo ne montre pas l'exécution, mais on y voit les têtes séparées des corps des victimes. Rien n'indique le lieu ou la date de ces exécutions. C'est la deuxième fois que l'organisation nigérienne publie une vidéo exposant des décapitations. La première remonte au mois d'octobre. Boko Haram y exhibait l'exécution d'un homme affirmant être un pilote de l'armée nigérienne.
Ici aux États-Unis, les autorités annoncent qu'un citoyen américain d'origine somalienne, un terroriste qui s'était enfui du pays il y a plus de 2 ans et qui était activement recherché par les FBI et entre les mains des Américains en Somalie, où il a été arrêté récemment. Il est reproché à Liban Hadj Mohamed d'avoir, dit-on, fourni du soutien au groupe islamiste somalien Al-Shabaab et à Al-Qaïda. Le FBI avait offert 50 000 $ pour toute information qui mènerait à son arrestation et à sa condamnation.
Mali, le projet d'accord paraphé par le gouvernement, prend en compte les préoccupations essentielles des Maliens. C'est ce qu'a déclaré lors d'un point de presse hier à Bamako le ministre des Affaires étrangères du Mali à son retour d'Alger, où il conduisait la délégation de son gouvernement aux négociations intermaliennes. Compte rendu de Kassim Traoré.
Le chef de file de la délégation malienne a fait savoir qu'il y a eu un compromis avec les groupes armés. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères.
Un compromis, pas une compromission. Un compromis qui permette aux Maliens de s'engager dans un cadre qui leur permettra de retrouver la paix, la sécurité, l'entente, la réconciliation nationale, afin de permettre au peuple tout entier de se dédier à ce qui est important pour nous, c'est-à-dire les questions de développement économique, social.
Permet, selon le ministre, d'aller de l'avant car le document n'est pas encore signé.
L'accord de paix lui-même, il est juste paraffé. Ça veut dire que le document, il est gelé. Il n'y a plus aucune modification possible jusqu'à la signature que nous souhaitons qu'elle intervienne d'ici la fin de l'année ici au Mali. Mais un accord n'est pas suffisant pour faire la paix. C'est pourquoi il faut voir cette étape avec beaucoup d'humilité et de réalisme en comprenant que c'est juste une étape dans le processus.
En paraffant le projet d'accord d'Alger, le Mali a pensé aux populations qui souffrent dans les camps des réfugiés et au déploiement de son armée sur l'ensemble du territoire.
Ce n'est pas parfait, mais c'est ce qui était possible en ce moment précis au regard du contexte dans lequel nous nous trouvions dans cette négociation. Si nous avons un accord, cet accord permet aussi de pouvoir aider l'armée à assister les services de base pour pouvoir vraiment se déployer dans tous les espaces du pays pour pouvoir atténuer la souffrance des gens.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À Abidjan, l'avocat de l'État ivoirien, seule partie civile dans le procès pour atteinte à la sécurité de l'État, qui se déroule dans la capitale économique, a réclamé lundi 3 milliards d'euros de dommages et intérêts à l'ex-première dame Simone Gbagbo et à ses 82 co-accusés. Maître Sungalo Koulibaly est l'avocat de l'État ivoirien, mandaté par le ministère de la Justice. Sa plaidoirie est distincte des réquisitions du ministère public prévues mardi, rappelle l'AFP.
La partie civile réclame comme dommages et intérêts, au regard de tous les préjudices subis par l'État, la somme de 2 000 milliards de francs CFA, environ 3 milliards d'euros, que les accusés sont tenus de payer solidairement, a déclaré à la barre Maître Koulibaly. Un tel montant est fantaisiste, absurde et sans fondement, a lancé Maître Habiba Touré, l'avocate de Simone Gbagbo, qui devrait plaider à son tour mercredi. Chacun est poursuivi pour des faits distincts. On ne peut donc demander une solidarité des accusés, a-t-elle dit.
Les Nations Unies craignent maintenant que les centaines d'enfants enlevés le mois dernier au Soudan du Sud n'aient été forcés à devenir des enfants soldats. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, l'UNICEF pense que le nombre d'enfants kidnappés dans l'état du Haut-Nil est plus élevé que les 89 signalés auparavant. L'agence onusienne estime que les ravisseurs présumés appartiennent à une milice pro-gouvernementale, celle de Johnson Ohloni, un ancien adversaire des autorités de Djouba.
En Libye, le général controversé Khalifa Haftar, hostile aux islamistes, a été nommé lundi à la tête des forces armées loyales au Parlement libyen, reconnue par la communauté internationale. Une décision qui risque de rendre encore plus difficile toute solution politique dans ce pays profondément divisé, souligne l'AFP.
D'autre part, le Parlement a décidé de reprendre le dialogue politique parrainé par l'ONU une semaine après avoir annoncé la suspension de sa participation aux négociations à l'issue d'une rencontre avec le représentant spécial de l'ONU en Libye.
Le président tanzanien Jakaya Kikwete, dont le pays est secoué par une recrudescence d'attaques visant les albinos, promet de prendre toutes les mesures pour mettre fin à cette situation. Un message qui vient à l'approche de la saison électorale. En Tanzanie, les albinos sont victimes de croyances attribuant des vertus magiques à des parties de leur corps. Des détails avec Salwa Jaafari.
Le président Kikwete renouvelle ainsi sa déclaration de guerre contre la sorcellerie. Il promet de mettre fin à la persécution des albinos, souvent victimes de croyances attribuant des vertus magiques à certaines parties de leur corps. Les suspects des exactions contre ces tranches de la société seront traqués, arrêtés, traduits en justice et condamnés, a-t-il déclaré. Rien ne sera épargné pour venir à bout du phénomène. Un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. En cette saison électorale, les attaques contre les albinos sont plus acharnées puisque selon certaines croyances, les organes mutilés des albinos porteraient bonheur aux hommes politiques. Le mois dernier, un bébé albino de 18 mois a été enlevé par des hommes armés avant d'être retrouvé mort, amputé de ses bras et de ses jambes. Et puis, l'on est toujours sans nouvelles d'une petite albino enlevée dans les mêmes conditions, fin 2014. Selon l'ONU, depuis 2000, plus de 70 albinos ont été tués en Tanzanie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Avant de passer aux nouvelles internationales, nous souhaitons la bienvenue aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui sur 102 FM à Dakar, au Sénégal. Notre nouvel émetteur à Dakar, capitale du Sénégal. Maintenant, le premier ministre israélien, pour revenir à Washington, Benjamin Netanyahou, a dit qu'il y a accord entre Israël et les États-Unis sur la nécessité d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Le désaccord porte sur la meilleure manière de l'empêcher de développer ses armes, a-t-il déclaré hier, avant le discours qu'il doit prononcer aujourd'hui devant les deux chambres du Congrès à Washington. Cette invitation du président républicain de la Chambre des représentants à M. Netanyahou est controversée ici aux États-Unis parce qu'elle a été faite sans consultation avec la Maison-Blanche, comme le veut la tradition.
Elle met aussi en exergue les relations tendues entre le premier ministre israélien et le président Barack Obama. Pour Benjamin Netanyahou, Washington se préoccupe de sécurité, tandis qu'Israël doit se préoccuper de sa survie. Pour sa part, le président Obama a déclaré dans une interview à l'agence Reuters qu'il y a un désaccord substantiel entre son administration et le gouvernement israélien sur l'objectif qui est d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Il assure que ce désaccord n'aura pas d'effet destructeur permanent sur les les liens américano-israéliens. De son côté, M. Netanyahou a dit son respect pour M. Obama et souligné que les relations entre son pays et les États-Unis restent fortes.
À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Il y a de plus en plus de milliardaires dans le monde et ils sont de plus en plus riches selon le classement de la revue Forbes publié lundi. Le plus fortuné de tous est encore l'Américain Bill Gates avec une fortune qui s'établit à 79,2 milliards de dollars. Numéro 2, le mania des télécommunications mexicain Carlos Slim qui a vu sa fortune passer de 72 à 77,1 milliards de dollars. Et en troisième position, le businessman américain Warren Buffett avec 72,7 milliards de dollars. Au total, la planète compte pas moins de 1826 milliardaires, soit 290 de plus que l'an dernier. Le plus jeune de ces milliardaires a 24 ans, c'est le Californien Evan Spiegel, le PDG de Snapchat, l'application de messagerie éphémère qu'il a créée en 2011 avec Bobby Murphy, 25 ans. La réaction d'un centrafricain, Brice Kevin Kakpayan, président de l'ONG Enfants sans frontières, Mbeki.
Là où il n'y a pas la guerre, là où il n'y a pas de troubles, les gens se concentrent pour accroître leur économie, pour développer des industries. Et je salue cette initiative pour que ça puisse vraiment encourager les autres qui ne font pas d'efforts, qui ne se complaisent seulement qu'à détruire le pays, à faire un effort. Et encore avec le capitalisme dont certains sont vraiment partisans, ça va créer une inégalité. Ceux qui sont riches vont accroître leur économie pour devenir plus riches.
Les opérateurs téléphoniques du monde sont réunis à Barcelone jusqu'au 5 mars au Congrès mondial de la téléphonie mobile. Les fabricants tentent de séduire les clients des pays émergents en lançant de nombreuses campagnes commerciales. Orange est dans la course avec son offre Orange Cliff de quelques 40 dollars qui comprend un smartphone, un forfait internet mobile, des appels et des SMS. Le smartphone 3G sera bientôt disponible dans 13 pays dont le Sénégal, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le tirage au sort des 16e de finale de la Ligue africaine des champions a eu lieu ce lundi.
Et le tenant du titre, l'Entente sportive de Sétif, le club algérien qui jouera contre le Real de Banjul ou les Barakian Controllers, le club libérien. Le match n'a pas encore été joué. Autre affiche de ces 16e de finale, le club de l'AS Kaloum qui a fait tomber le CEO Sport San Pedro. Les Guinéens seront opposés aux Esco United de Zambie. Autre club algérien, l'USM Alger contre l'AS Pikin, le club de la banlieue dakaroise. Les Soudanais d'Al Hilal contre les Big Bullets du Malawi. Le Coton Sport de Garoua contre Sanga Balende, le club congolais, le Cosmos Bafia, l'autre club camerounais contre l'Espérance de Tunis, et le club angolais du Kabouskor qui se déplacera à Sokodé chez le Semassi, autre club algérien El Eoulma contre la Santé Kotoko, le club ghanéen, et puis Smouha d'Égypte face à Enimba du Nigeria, Gor Maïa, le club kényan contre l'AC Léopard de Dolisie, et puis l'APR, le club de Kigali contre Al Ahly d'Égypte, un beau choc en perspective à Kigali, et puis le Maghreb de Tétouan contre les Canopilas, le Raja Casablanca face au Kaiser Chief d'Afrique du Sud, et puis autre club sud-africain, Mamelodi Sundowns contre le tout-puissant Mazembe, le club de Lubumbashi, enfin le Manga Sport, le club gabonais contre le Stade Malien.
Copa Barry tire sa référence.
Et oui, le gardien héros de la finale à Bata qui a donné la Coupe d'Afrique des Nations ivoiriens tire sa révérence. Il a posté hier une vidéo sur ses comptes sociaux officiels. Adieu Copa Barry. Copa Barry qui lâche donc ses partenaires après ce beau succès. Bravo l'artiste.
Formule 1, le fils de Michael Schumacher sur les traces de son père.
Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde de Formule 1, débutera en avril en monoplace en intégrant l'équipe néerlandaise Team Van Amersfoort en Formule 4. Mick Schumacher, 15 ans, est déjà champion d'Europe et vice-champion du monde junior de karting en titre. La Formule 4, créée en 2014, est un championnat de promotion permettant aux jeunes pilotes de faire leurs armes sur des voitures plus légères que dans la catégorie reine, la Formule 1. Et puis Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto 114, Philadelphia 103, Golden State Warriors 108, Brooklyn Nets 110, Phoenix 98, Miami 115. LA Clippers 110, Minnesota 105, New Orleans Pelicans 93, Dallas 102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le gouvernement du Mali et certains groupes armés proches de Bamako ont paraphé le projet d'accord de paix proposé par la médiation à Alger dimanche dernier. Dans le nord du Mali, à Gao, les populations saluent en majorité le projet, mais elles invitent à la prudence par rapport au mot « Azawad » utilisé dans le document. Alors de Gao, notre correspondant Boubacar Touré.
À Gao, dans le nord du pays, la plupart des populations saluent la signature du document proposé par la médiation à Alger. Voici la réaction de certaines personnes interrogées.
Le peuple a beaucoup souffert et continue à souffrir. Et le peuple n'aspire qu'à la paix. Tous ceux qui nous y aident veulent qu'on ait la paix également. Signer a été une très bonne chose.
Cette signature est la bienvenue pour nous autres. Parce que vraiment, ça fait un apaisement pour nous que d'entendre qu'il y ait un accord. Parce que nous savons ce que nous avons vécu pendant ces dernières années. Pratiquement, je peux dire que c'est les femmes qui ont beaucoup souffert de cela. Parce que les femmes, elles n'ont pas assez de ressources. Elles ne peuvent compter que sur leurs hommes. Malheureusement, ces hommes ne peuvent même pas quitter la ville. À plus forte raison, aller chercher quelque chose ailleurs.
17 millions de Maliens ont mandaté des hommes qui ont une capacité de synthèse, une capacité d'analyse. Et je pense que si aujourd'hui, ils ont signé le document, c'est pour que ce que veulent les populations, la paix, la sérénité, la tranquillité, le développement, tout partira de ce document-là.
Cependant, les personnes interrogées invitent les uns et les autres à la prudence par rapport au mot « Azawad » utilisé dans le document.
Si la médiation elle-même a reconnu que le mot « Azawad » n'a pas de valeur juridique, autant la geler systématiquement. Le mot « Azawad » peut demain susciter un autre débat de fond que nous devons préserver. Nous éviter, dès le lendemain de ces accords, de tomber dans une autre impasse, dans une autre léthargie qui ne dit pas son nom.
Par rapport à la demande de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui souhaite aller informer sa base, les gens ont des avis partagés.
J'ai eu dire également par les ondes des grandes autorités qu'ils veulent se donner le temps d'aller informer. Si ce n'est que cela, je n'ai pas de grandes inquiétudes. C'est une très bonne chose qu'ils informent, mais j'espère bien qu'ils reviendront à la raison.
Moi, j'ai apprécié leur point de vue sur la question. Si c'est de bonne foi, il n'y a pas de problème que d'aller informer, n'est-ce pas, leur base. C'est très important et moi, je soutiens ça. Le gouvernement lui-même doit prendre notre assentiment, le point de vue du peuple souverain du Mali, avant de signer ou de paraffer un quelconque document.
Ceux-là même qui ont refusé, qui disent qu'ils ne signent pas, ils vont à la base, cela veut dire qu'ils ont des problèmes. Si la communauté internationale réfléchit bien, c'est pas le Mali qui a proposé le document, c'est le médiateur, c'est l'ensemble de ceux qui constituent la médiation qui ont proposé un document.
Une grande inquiétude pour nous et une incertitude. Ça nous coupe le sommeil. On est dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui peut nous dire que demain ou après-demain, ils ne vont pas nous attaquer? Nous sommes vraiment dans l'incertitude.
Gao, Boubacar Touré pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le prix Mont Ibrahim 2015, qui encourage la bonne gouvernance, a été attribué hier au président sortant namibien Hifikepunye Pohamba. Élu en 2004 et réélu en 2009, il doit céder sa place au nouveau président Hage Geingob. Hifikepunye Pohamba recevra 5 millions de dollars sur 10 ans et ensuite 200 000 dollars par an à vie. Pour en savoir plus sur les éléments qui ont orienté le jury du prix Mont Ibrahim cette année, Timothée Donangmaï a joint à Ouagadougou Dany Aïda, expert en gouvernance pour la firme de conseil en développement international Africa Label.
Je crois que ce prix reconnaît enfin quand même un État africain où un dirigeant a fait preuve de constance dans son engagement démocratique et aussi dans les performances qui ont été réalisées sur le plan notamment du développement institutionnel, parce que vous vous rappelez que ça fait quand même un certain nombre d'années, 4 ou 5, où le comité Mont Ibrahim n'a pas tout trouver de récipiendaire par rapport à ce prix parce que, évidemment, la plupart des candidats ne satisfaisaient pas aux critères. Et la Namibie, on a suivi ce pays quand même qui est assez stable, où depuis son indépendance, on a vu beaucoup d'élections s'organiser, on a vu des alternances se mettre en place. Et c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, mais dont les performances sur tous ces plans-là sont assez parlants. Et je crois que le comité Moi Ibrahim a vraiment raison de décerner ce prix à l'ancien président namibien.
On ne peut s'empêcher de noter que ce prix, jusqu'ici, est allé surtout en Afrique australe. Pourquoi ?
Je ne sais pas si c'est la région qui a attiré l'attention. Le prix aurait été décerné, par exemple, à un dirigeant capverdien, si on veut parler d'Afrique de l'Ouest, que ça ne m'aurait pas étonné non plus, ou bien à un Mauricien ou à un Seychellois. Mais en définitive, je crois que ce président, par rapport à sa personnalité et aussi à l'ancrage institutionnel qui a pu avoir lieu en Namibie, démontrer quand même la constance dont j'ai parlé, mais également une certaine reconnaissance de la part de ses concitoyens qui reconnaissent que voilà un dirigeant qui a, pendant son passage à la tête du pays, fait beaucoup de réalisations, respecté les institutions et renforcé surtout la dynamique nationale sur plusieurs plans, et qui, après son départ, continue d'une manière ou d'une autre à servir d'exemple pour ses concitoyens. Je crois que ça mérite d'être souligné. On peut peut-être espérer que cela va faire tache d'huile dans toute région d'Afrique, mais à chercher autrement, je pense qu'il y a d'autres pays quand même où, en termes de stabilité ou de la qualité des institutions, il y a quand même beaucoup d'avancées ces dernières années, quand même à travers le continent.
Pensez-vous que le prix Mo Ibrahim amène réellement les dirigeants africains à procéder autrement, à instaurer un changement dans leur façon de faire?
C'est quelque chose d'assez positif sur l'Afrique aujourd'hui en termes de référentiel. Hein. Mais de mon point de vue en tant qu'observateur quand même du jeu politique en Afrique, on peut espérer qu'on n'attende pas entre deux occasions, deux saisons de prix pour en parler. Il faut certainement que le comité Mo Ibrahim ou que cette fondation-là puisse créer beaucoup plus d'opportunités pour qu'on parle de la gouvernance en Afrique, pour qu'on sache les aspects sur lesquels on peut compter en termes de qualité de performance de la gouvernance, pour qu'on ne considère pas ça sur un plan simplement événementiel.
C'était Dany Aïda, expert en gouvernance pour la firme de conseil en développement international Africa Label. Il nous parlait de Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
L'Afrique continue d'être, avec l'Asie et l'Amérique latine, un marché attrayant pour les télécommunications. Au Congrès mondial de la téléphonie mobile qui se tient à Barcelone, les fabricants de smartphones proposent plusieurs modèles bon marché et les compagnies télécom et Internet multiplient les offres de services à coût abordable. Timothée de Nangmaï a recueilli la réaction de Soko Waza Théophile, spécialiste des TIC à Abidjan.
On était déjà parti des desktops déjà au départ. Maintenant, les gens se sont habitués aux laptops. Maintenant, ils sont sous les smartphones. La population, même les plus jeunes, même dans les collèges, les lycées, les étudiants, chacun a son téléphone mobile. Et donc, ils font des recherches à partir de là. Ils sont en connexion, en fait, avec l'extérieur. Ils ont des relations à gauche, à droite. Ils sont en train de travailler beaucoup sur les sites de contact, tels que Facebook, Skype, tout ce qui est communication par Internet qui revient moins cher, tel que WhatsApp et autres. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut dire que les jeunes sont vraiment des grands consommateurs. Donc en tout cas, je pense que la consommation n'est pas en grandissant. Hein.
Quel va être l'impact, selon vous, de l'arrivée sur le marché des smartphones moins chers?
Ça va permettre à la population qui n'a pas assez de revenus d'avoir accès à ces smartphones et à ces solutions moins chères. Donc ça permettra à la grande majorité d'avoir accès.
Au plan de la conception et même de la fabrication des nouvelles technologies, quelle est la situation en Côte d'Ivoire?
Il n'y a encore rien qui est fait. La majorité des équipements sont importés d'Europe ou d'Asie, majoritairement de Chine. Sur place, il n'y a pas de construction. Par contre, ce que les opérateurs locaux font, chacun travaille pour avoir son propre réseau pour donner le jus Internet. Donc nous, par exemple, qui sommes dans le domaine des télécoms, on s'arrange à installer des hotspots, à prendre des équipements avec tel opérateur pour couvrir une zone de plus en plus large. Mais nous ne sommes pas encore en mesure de construire nous-mêmes des équipements. Donc, on n'a pas encore d'équipementier en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'équipementier. On ne monte même pas les ordinateurs. On commande encore les ordinateurs de l'extérieur. Donc, on commande tout de l'extérieur. Voilà.
Soko Waza Théophile, spécialiste d'éthique, joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président Barack Obama dit que l'Iran devra geler pendant au moins 10 ans ses activités nucléaires sensibles pour assurer le succès de tout accord. Dans une interview à l'agence Reuters, le chef de l'exécutif américain a reconnu que les chances de parvenir à un tel accord sont toujours estimées à moins de 50%. Les précisions d'Henri Francisque.
Le président Obama a parlé de ses négociations sur le nucléaire hier, un jour avant que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne s'adresse solennellement aux deux chambres du Congrès. Il a souligné que le meilleur moyen d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, ce n'est ni la prise de nouvelles sanctions, ni l'option militaire, mais la diplomatie.
What we've said from the start is by organizing a strong sanctions regime globally.
Ce que nous avons dit dès le début, c'est qu'on peut amener l'Iran à la table de négociation avec une série de sanctions énergiques. Et en amenant l'Iran à la table, le forcer à avoir de sérieuses négociations qui nous permettront de voir exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Le président Obama a expliqué que le temps que cela prendrait à l'Iran pour fabriquer une bombe atomique, si Téhéran décidait de le faire, donnerait aux inspecteurs internationaux une chance pour détecter toute violation et que l'on pourrait user de l'action militaire pour arrêter l'Iran. Téhéran, a-t-il poursuivi, devrait s'engager à geler pendant au moins 10 ans les parties sensibles de son programme nucléaire pour parvenir à un accord réussi. Pour sa part, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou compte dire dans son discours devant les parlementaires américains qu'un potentiel accord nucléaire avec l'Iran serait une menace à la survie de l'État d'Israël. Sa décision de parler devant les deux chambres du Congrès a provoqué de vives critiques de beaucoup, dont des parlementaires démocrates qui trouvent que M. Netanyahou agit dans le dos du président Obama et sape les négociations actuelles. Le président Obama a tenté hier de minorer toute perception de froid entre lui et M. Netanyahou, notant que le soutien militaire américain à Israël a été, pendant son administration, sans précédent. Mais il estime que c'est une erreur pour le premier ministre israélien de s'adresser au Congrès des États-Unis quelques semaines seulement avant les élections israéliennes. Cette décision, a-t-il poursuivi, politise la relation américano-israélienne. Et bien qu'elle n'ait pas d'effet destructeur permanent, elle détourne de l'objectif qui est d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique.
When we first announced this interim deal,
quand nous avons d'abord annoncé l'accord intérimaire, le premier ministre Netanyahou a fait toutes sortes de déclarations. Cela allait être un très mauvais accord. Cela allait permettre à l'Iran de récupérer 50 milliards de dollars. L'Iran n'allait pas respecter l'accord. Rien de cela ne s'est vérifié. Il se trouve qu'en fait, pendant cette période, nous avons vu que l'Iran n'a pas fait avancer son programme. À de nombreux égards, il a fait machine arrière sur certains éléments de son programme. M. Netanyahou, quant à lui, a déclaré devant les délégués à la convention annuelle du groupe de pression pro-israélien AIPAC que les relations entre les États-Unis et Israël résisteront aux désaccords du moment et en sortiront plus fortes encore.
My speech is not intended to show any disrespect
to President
Obama.
Mon discours ne vise pas du tout à manquer de respect au président Obama ou à la présidence des États-Unis. J'ai le plus grand respect pour les deux. Je suis profondément reconnaissant au président Obama pour tout ce qu'il a fait pour Israël. La coopération sécuritaire, le partage de renseignements, le soutien aux Nations Unies et bien plus encore. Les analystes disent que le désaccord entre les deux leaders n'a rien de personnel ou partisan. Le président Obama et le premier ministre Netanyahou ont des divergences fondamentales, explique-t-il, sur ce qui est meilleur pour la sécurité nationale de leurs pays respectifs. Dans ce cas-ci, la meilleure manière d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur